Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h47, la France à vos côtés, c'est le combat d'une maman, un parcours d'une mère de famille face à son fils, addict à la drogue. Pour en parler ce matin, Roselyne Fèvre, bonjour, merci d'être bonjour. Avec nous. Vous êtes journaliste et auteur de ce livre, Les battements du cœur du colibri aux éditions du Rocher. Et on va revenir justement de façon un petit peu plus large sur ces addictions avec Nicolas Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du réseau de prévention des addictions, ça s'appelle RESPAD, vous allez nous expliquer dans quelques instants à quoi ça correspond. Je le disais, c'est un terrible parcours d'une maman totalement démunie face à l'addiction de son fils à l'époque adolescent, qui s'appelle Arthur. Comment on se rend compte finalement que son fils ne va pas bien ?
Eh ben, au tout début, ça commence à 16 ans ou 15-16 ans, 14-15 ans.
C'est, on teste tout. Mmh.
Et on voit qu'il fume, évidemment, parce qu'il y a des petits... vous voyez les paquets de cigarettes qui sont coupés sur le côté pour faire des... vous repérez deux, trois trucs.
Pour faire des filtres, oui, c'est ça.
Pour faire des filtres, ouais, absolument. Vous voyez les petits moulins pour moudre... Le shit. Et puis, vous voyez quand même les résultats scolaires, parce que le cannabis, c'est un peu le dopant du rien, quand même. Ouais. Hein, c'est-à-dire que vous êtes un peu amorphe. Et donc, il y a un petit moment de creux, et donc là, faut le rebooster. Donc, il a peur de retripler, donc on lui dit, bah, écoute, ça va être bac professionnel. Et là, il est un peu peur, donc il se remet en selle, et il réussit son bac, et tout va bien. Et après, ça recommence. Il recommence et là, il monte crescendo et il fait une bouffée délivrante à 19 ans avec des champignons hallucinogènes, puis d'autres substances qu'il essaye comme ça. Il va à des concerts, il prend de la MDMA parce qu'il trouve ça sympa d'être perché en écoutant de la musique.
Donc, est-ce que c'est un problème de mauvaise fréquentation ou est-ce que c'est un problème aussi?
Aussi un problème de fréquentation, bien sûr. Et puis au début, c'est pour entrer dans une bande.
C'est ça.
Fumer du cannabis,
être cool.
Et puis après, effectivement, vous avez toutes les mauvaises fréquentations qui sont là et qui vous harponnent.
Ouais. Et là, c'est difficile, en fait, pour vous d'intervenir, quoi.
Bah moi, j'interviens quand c'est trop tard, en fait.
Ouais, ouais.
Parce qu'au début, on essaie d'aller l'emmener voir un médecin pour voir un addictologue. Mais bon, c'est totalement inopérant. Et en fait, vous tirez sur une corde, vous vous rendez compte que plus vous tirez, plus vous contrôlez, plus c'est incontrôlable.
Oui. Nicolas Bonnet, je le disais, vous êtes directeur du réseau de prévention et des addictions, il s'appelle RESPAD, c'est le plus grand réseau de santé nationale en Europe. Vous traitez des sujets liés forcément aux addictions, on parle de cigarettes, d'alcool, mais aussi on parle de drogue. La France, en matière d'usage, est quasi numéro un en Europe chez les adolescents.
La France, en matière d'usage de cannabis, est sans doute le premier pays en Europe en termes d'expérimentation de l'usage de cannabis et d'usage régulier de cannabis à 17 ans. Néanmoins, les éléments positifs actuellement, c'est qu'à 17 ans toujours, les consommations d'alcool, de tabac, de cannabis et les ivresses diminuent. Et ça depuis maintenant 2014. Donc on a une vraie baisse des consommations à risque à 17 ans. Ceci étant, les consommations s'inscrivent toujours sur un triptyque, qui est toujours l'interaction entre un produit, un environnement et un individu. Et c'est sur ce triptyque, en fait, que vont se greffer ensuite des consommations qui seront à risque. Donc même si les consommations diminuent à 17 ans, on a toujours, j'allais dire, un corps de personnes qui continuent à avoir des consommations excessives parce que...
Et à vous solliciter.
Et à nous solliciter parce que, ces renforts ne sont pas suffisamment ancrés. Et c'est vrai, ça a été dit à l'instant, on a un besoin extrêmement important de renforcer aussi l'accompagnement des familles. Moi, par ailleurs, je suis responsable d'une consultation aux jeunes consommateurs aussi à l'hôpital de Salpêtrière à Paris, où effectivement, la problématique des jeunes est très souvent d'abord une problématique systémique, familiale,
qu'il faut pouvoir accompagner. Mais à partir de quel moment on devient, le jeune addict. Devient addict, quoi ? Il bascule entre fumer quelques joints lors d'une soirée ou deux, trois soirées en fait dans la semaine. Bon, parce que
c'est entre l'alcool,
tout le monde est un peu passé par là, boire un peu d'alcool, faire la fête, etc. Et le fait de devenir addict, ça c'est autre chose quand même.
Le parcours de consommation, ce qu'on appelle le parcours de consommation avec les dynamiques de consommation, ça prend du temps.
Ouais.
Ça peut prendre très longtemps. Pour l'alcool, ça va prendre 20 ou 30 ans souvent avant d'installer une addiction à l'alcool. Addiction, ça veut dire esclavage. Donc avant que vous soyez l'esclave du produit, ça va prendre 20 ou 30 ans. Avant que vous soyez dépendant, c'est-à-dire dépendere, ça veut dire être lié à quelque chose, ça va très vite. Les liaisons amicales, affectives, psychologiques avec le produit environnemental, ça arrive rapidement dans la vie des personnes. Et c'est comme ça qu'ensuite, au fur et à mesure, l'addiction...
Et chez les jeunes, peut-être plus vite que... C'est ça, non ? Pour le cannabis.
Les facteurs de risque, c'est la précocité des consommations, c'est un cerveau qui est immature, c'est apprendre à gérer ses émotions aussi très tôt. Donc ça veut dire aussi développer des programmes qui vont développer les compétences psychosociales chez les jeunes. Mmh. Et ça, c'est très important si on veut ensuite renforcer du coup l'adolescent pour qu'il puisse, lorsqu'il va être confronté à des consommations, parce qu'il le sera, il sera confronté à des consommations, mais lorsqu'il le sera, qu'il puisse avoir...
Et avec des dangers, forcément, quoi, du cannabis, quoi. Parce que souvent, on dit oui, bah alors ça fait pas de mal, effectivement, lors d'une soirée ou deux, mais quand on va beaucoup plus loin, dans une fève, là, ça devient...
Alors, il y en a qui s'arrêtent au stade du festif, d'un petit pétard, etc. D'autres, alors ça dépend des failles, parce que souvent, ça révèle des failles psychiatriques.
Oui. Vous avez dit, parce que la réalité ne nous convient pas, c'est ce qu'a dit votre fils Arthur.
Oui, il dit, parce qu'à un moment, il est à la sortie du lycée, à 8h du matin, et il fume un pétard avec un copain, et le copain lui dit, mais pourquoi on fume à 8h du matin ? Et mon fils répond, parce que la réalité ne me convient pas. Donc, comme si, dans le fond, c'était des enfants symptômes d'une société...
D'une
société qui ne veulent pas. On voit bien qu'il y a une crainte, qu'il y a des paniques. Autant il y a chez les adultes des paniques morales ou des paniques sur l'identité ou je ne sais quoi, ou des peurs. Chez les jeunes, il y a peut-être des paniques sur la planète,
sur le climat, des
tas d'émotions. Et puis de travailler dans un monde hyper mondialisé, globalisé, où on est quand même mal payé, donc j'en sais rien. Peut-être que je me fais un film.
Bien sûr, c'est des sujets à poser sur la table. Je vais revenir sur un point important, parce que quand on est face à ce problème-là, on est forcément face aux hôpitaux. Oui. Aux hôpitaux, en l'occurrence, c'est les hôpitaux psychiatriques, donc il y a différentes formules. Hein, fermé à jamais, semi-fermé à jamais, en tout cas, vraiment verrouillé avec à clé, à semi et semi-fermé et ouvert. Oui. Est-ce que ces hôpitaux sont vraiment adaptés ? Parce que vous, avant de comprendre que votre fils était juste addict à la drogue, vous êtes passé par des étapes incroyables.
Alors oui, ils sont adaptés dans la crise. C'est-à-dire que c'est une médecine d'urgence, la psychiatrie. Parce que, et après, on contient. Mais après, ça devient contre-productif. Parce que ce que vous disiez, monsieur, sur l'addiction, c'est-à-dire que si on va sevrer avec des médicaments, mais du coup... les jeunes ou la personne va être addict aux médicaments.
Oui, va être drogué aux médicaments, c'est ça.
Peu importe, qui ne sont pas pour l'instant, parce qu'on installe assez tard les traitements de fond. Mais au début, on met beaucoup d'antipsychotiques, etc., et d'anxiolytiques. Ouais. Et c'est là où ça devient contre-productif au bout d'un certain temps. Il ne faut pas rester longtemps.
Ouais. Et Nicolas Bonnet, à partir de quel moment on fait appel à vous et comment peut-on faire appel à vous ? J'imagine que certains auditeurs sont peut-être confrontés en fait, à ça et se disent reste pas d'accord, mais alors comment fait-on ?
Les différents niveaux de réponse. D'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est en contact d'abord avec ce qu'on appelle la médecine de premier recours, votre médecin généraliste, votre pharmacien, votre infirmière, qui sont les acteurs d'abord de premier recours qu'il faut aller voir, qu'il faut former avec des vraies compétences pour pouvoir intervenir précocement. Je pense aussi aux infirmières scolaires, par exemple.
Et ça, faut pas hésiter à en parler, quoi.
Faut pas hésiter à en parler. Il faut en parler le plus tôt possible. Ensuite, effectivement, on va développer une offre de services en addictologie plus spécialisée. Mais plus l'offre est spécialisée, plus effectivement les réponses seront techniques. Plus ça veut dire que déjà les consommations seront inscrites dans la vie de façon importante, et plus du coup la prise en charge sera également derrière beaucoup plus importante et plus longue à réaliser. Donc vraiment l'enjeu, mais c'est un enjeu de société. C'est véritablement apprendre à parler drogue, j'ai envie de dire. Apprendre à parler sur les compétences psychosociales très tôt et apprendre à trouver l'interlocuteur autour de soi pour pouvoir en parler avec confiance et sérénité.
Et c'est ça qui est difficile.
Je peux pas trouver. Moi, que vous dites le pharmacien, l'infirmière, alors les infirmiers, ils ont été formidables avec mon fils, parce que c'est eux qui font le boulot de psychologie, on va dire, parce que les médecins, ils n'ont pas le temps. Mais franchement, des structures où vous allez... Moi, je rencontre plein de parents perdus qui m'envoient des messages. Qu'est-ce que je dois faire ?
Et les structures sont brutales, en plus.
Et les structures... Alors, il faut attendre quoi ? Le drame pour aller à l'hôpital psychiatrique. Les cliniques, vous allez vous reposer parce que vous faites un petit burn-out ou parce que, voilà, ils vous demandent quand même un certain prix.
Et les vraies cliniques sont très, très chères aussi.
Elles sont très, très chères. En plus, est-ce qu'elles sont soigne véritablement. Donc des structures, je trouve qu'on manque de structures en France, et on manque aussi de prévention.
Oui.
Parce qu'à l'époque, dans les lycées ou dans les collèges, il y avait un policier qui venait et qui disait voilà, c'est pas bien.
Etc. Ça se fait encore
mais
parfois. Hein.
Mais c'est, oui, mais c'est inopérant. Il faut que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes.
Oui. Avec Nicolas Bonnet.
Deux éléments en plus. Il y a des consultations jeunes consommateurs en France. Moi, voilà, je m'occupe d'une à Paris, mais il y en a maintenant 200 en France qui sont aussi des lieux d'écoute extrêmement importants, qui sont complémentaires des points d'accueil.
Et d'abord les parents et ensuite les jeunes, peut-être, non ?
Et parce que les parents, c'est important. Et on reçoit les jeunes avec leurs parents. Et c'est encore une fois, la prise en charge est globale et est extrêmement importante.
Sauf que si le jeune ne veut pas, comment on fait ?
Et c'est le travail du professionnel de faire en sorte que le jeune reste. Oui. Mais voilà, on a des outils motivationnels pour faire en sorte que les jeunes restent. Ouais. On n'a pas beaucoup d'histoires d'échecs par rapport à ça. Et deuxième point, c'est ce que vous dites sur la prévention. Mmh. Mais pour parler de prévention correctement, il faut aussi qu'on pense les drogues différemment. Il faut aussi qu'on ait une réforme globale de la politique des drogues, parce que nous, en tant que professionnels de santé, on reçoit des jeunes consommateurs qui consomment des produits illicites, qu'on considère comme des individus, des usagers d'un produit pour lequel on va les accompagner et les soigner. En tout cas, on va essayer de le faire. Et quand ils sortent de notre bureau de consultation, quand ils sortent de l'hôpital, ils sont considérés comme des délinquants. Et ça, c'est très compliqué pour les professionnels de santé.
En tout cas,
ça s'appelle les battements du cœur du colibri. Un témoignage très touchant, très émouvant, avec des pointes d'humour. Vous allez voir aux éditions du Rocher.
Ah ouais,
Roselyne et l'association RESPAD.
Et RESPAD, absolument. Hein. Merci d'avoir été avec
nous. RESPAD. Voilà, c'est ça.
Et on voit que dans ce livre, en tout cas, il y a des lueurs d'espoir et qu'il faut s'y accrocher. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Christine Bouillot et
Gilles
comédien.
Gilles Gansman. On va parler notamment aussi tout à l'heure du Crazy Horse, avant de parler des grands débats. Ça fait
marrant,
bien.
C'est marrant, il n'y a que ça.
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Il n'y a que ça.
Et André Bercoff ce midi. Allez, ciao.
Il a un cerveau, lui.